Chapitre 4. Une soirée au pavillon de Flore. Ce que la reine avait vu dans une carafe 20 ans auparavant au château de Tavernay. Le soir de ce même jour, c'est-à-dire le 24 décembre, veille de la Noël, il y avait réception au pavillon de Flore. La reine n'ayant pas voulu recevoir chez elle, c'était la princesse de Lamballe qui recevait pour elle et qui faisait les honneurs du cercle jusqu'à ce que la reine fût arrivée. La reine arrivée, toute chose reprenait son cours comme si la soirée se fût écoulée au pavillon Marsan au lieu du pavillon de Flore. Dans le courant de la matinée, le jeune baron Isidore de Charny était revenu de Turin et, aussitôt son retour, il avait été admis près du roi d'abord et près de la reine ensuite. Il avait trouvé chez tous deux une extrême bienveillance, mais chez la reine surtout, deux raisons rendaient cette bienveillance remarquable. D'abord, Isidore était le frère de Charny, et Charny absent, c'était un grand charme pour la reine que de voir son frère. Puis Isidore apportait, de la part de monsieur le comte d'Artois et de la part de monsieur le prince de Condé, des paroles qui n'étaient que trop en harmonie avec celles que lui soufflait son propre cœur. Les princes recommandaient à la reine les projets de monsieur de Favras et l'invitaient à profiter du dévouement de ce courageux gentilhomme à fuir et à les venir rejoindre à Turin. Il était en outre chargé d'exprimer, au nom des princes, à monsieur de Favras, toute la sympathie qu'ils éprouvaient pour son projet et tous les vœux qu'ils faisaient pour sa réussite. La reine garda Isidore 1 heure près d'elle, l'invita à venir le soir au cercle de madame de Lamballe et ne lui permit de se retirer que parce qu'il lui demanda congé pour aller s'acquitter de sa mission près de monsieur de Favras. La reine n'avait rien dit de positif à l'endroit de sa fuite. Seulement, elle avait chargé Isidore de répéter à monsieur et madame de Favras ce qu'elle avait dit lorsqu'elle avait reçu madame de Favras chez elle et qu'elle était entrée tout à coup chez le roi, tandis que monsieur de Favras s'y trouvait. En quittant la reine, Isidore se rendit immédiatement auprès de monsieur de Favras qui demeurait place royale numéro 21. Ce fut madame de Favras que reçut le baron de Charny. Elle lui dit d'abord que son mari était sorti, mais lorsqu'elle sut le nom du visiteur, quels augustes personnages il venait de voir il y avait 1 heure, quels autres il avait quittés 5 ou 6 jours auparavant, elle avoua la présence de son mari à la maison et le fit appeler. Le marquis entra, le visage ouvert et l'œil souriant. Il avait été prévenu directement de Turin, il savait donc de quelle part venait Isidore. Le message dont la reine avait en outre chargé le jeune homme mit le comble à la joie du conspirateur. Tout en effet secondait son espérance. Le complot marchait à merveille. Les 1200 cavaliers étaient rassemblés à Versailles. Chacun d'eux devait prendre un fantassin en croupe, ce qui donnait 2400 hommes au lieu de 1200. Quant au triple assassinat de Necker, de Bailly et de Lafayette, qui devait être exécuté simultanément par chacune des 3 colonnes entrant dans Paris, l'une par la barrière du Roule, l'autre par la barrière de Grenelle et la troisième par la grille de Chaillot, on y avait renoncé, pensant qu'il suffirait de se défaire de Lafayette. Or, pour cette expédition, c'était assez de 4 hommes, pourvu qu'ils fussent bien montés et bien armés. Ils eussent attendu la voiture, le soir à 11 heures, au moment où M. de Lafayette quittait ordinairement les Tuileries. 2 auraient longé la rue à droite et à gauche, 2 seraient venus au devant de la voiture, 1 de ceux-ci, tenant un papier à la main, aurait fait signe au cocher d'arrêter, disant qu'il avait un avis important à communiquer au général. Alors la voiture se serait arrêtée, le général aurait mis la porte à la portière, et aussitôt on lui aurait brûlé la cervelle d'un coup de pistolet. C'était là, du reste, le seul changement d'importance qui eût été fait au complot. Tout tenait dans les mêmes conditions. Seulement, l'argent était versé, les hommes étaient prévenus, le roi n'avait qu'à dire « oui » et à un signe de monsieur de Favras, l'affaire serait enlevée. Une seule chose inquiétait le marquis, c'était le silence du roi et de la reine à son égard. Ce silence, la reine venait de le rompre par l'intermédiaire d'Isidore, et si vagues que fussent les paroles que celui-ci avait été chargé de transmettre à monsieur et à madame de Favras, ces paroles sortant d'une bouche royale avaient une grande importance. Isidore promit à monsieur de Favras de reporter, le soir même, à la reine et au roi, l'expression de son dévouement. le jeune baron était, comme on sait, parti pour Turin le jour même de son arrivée à Paris. Il n'avait donc d'autre logement que la chambre que son frère occupait aux Tuileries. Son frère absent, il se fit ouvrir cette chambre par un laquais du comte. À 9 heures du soir, il entrait chez Madame la princesse de Lamballe. On n'avait point été présenté à la princesse. Celle-ci ne le connaissait pas, mais prévenue dans la journée par un mot de la reine, à l'annonce de son nom, la princesse se leva, et avec cette grâce charmante qui lui tenait lieu d'esprit, elle l'attira tout de suite dans le cercle des intimes. Le roi, ni la reine, n'étaient encore arrivés. Monsieur, qui paraissait inquiet, causait dans un coin avec deux gentilshommes de son intimité à lui, monsieur de la Châtre et monsieur d'Avaray. Le comte Louis de Narbonne allait d'un groupe à l'autre avec l'aisance d'un homme qui se sent en famille. Ce cercle des intimes se composait de deux gentilshommes qui avaient résisté à la manie de l'émigration. C'étaient messieurs de Lamette, qui devaient beaucoup à la reine et qui n'avaient pas encore pris parti contre elle, monsieur d'Ambly, une des bonnes ou des mauvaises têtes de l'époque, comme on voudra, monsieur de Castries, monsieur de Fersennes, Sulot, rédacteur en chef du spirituel journal Les Actes des Apôtres, tous cœurs loyaux, mais toutes têtes ardentes, quelques-unes même un peu folles. Isidore ne connaissait aucun de ces jeunes gens, mais à son nom bien connu, à la bienveillance particulière dont l'avait honoré la princesse, toutes les mains s'étaient tendues vers lui. D'ailleurs, il apportait des nouvelles de cette autre France qui vivait à l'étranger. Chacun avait un parent ou un ami près des princes. Isidore avait vu tout ce monde-là, c'était une seconde gazette. Nous avons dit que Sulot était la première. Sulot tenait la conversation et l'on riait fort. Sulot avait assisté ce jour-là à la séance de l'Assemblée. Monsieur Guillotin était monté à la tribune, avait vanté les douceurs de la machine qu'il venait d'imaginer, avait raconté l'essai triomphant qu'il en avait fait le matin même et avait demandé qu'on lui fît l'honneur de la substituer à tous les instruments de la mort, roues, potences, bûchers, écartèlements, qui avaient successivement effrayé la grève. L'Assemblée, séduite par le velouté de cette nouvelle machine, était tout près de l'adopter. Sulot avait fait, à propos de l'Assemblée, de M. Guillotin et de sa machine, sur l'air du menuet d'Exaudette, une chanson qui devait paraître le lendemain dans son journal. Cette chanson, qu'il chantait à demi-voix au cercle joyeux qui l'entourait, provoquait des rires si francs que le roi, qui venait avec la reine, les entendit de l'antichambre et que, comme pauvre roi, il ne riait plus guère, il se promit à lui-même de s'enquérir du sujet qui pouvait, dans les temps de tristesse où l'on se trouvait, provoquer une telle gaieté. Il va sans dire que dès qu'un huissier eut annoncé le roi et un autre la reine, tous les chuchotements, toutes les conversations, tous les éclats de rire cessèrent pour faire place au plus respectueux silence. Les deux augustes personnages entrèrent. Plus, à l'extérieur, le génie révolutionnaire dépouillait un à un la royauté de tous ses prestiges, plus, il faut le dire, dans l'intimité s'augmentaient pour les vrais royalistes ces respects auxquels les infortunes donnent une nouvelle force. 89 vit de grandes ingratitudes, mais 93 vit de suprême dévouement. Madame de Lamballe et Madame Élisabeth s'emparèrent de la reine. Monsieur marcha droit au roi pour lui présenter ses respects, et en s'inclinant, il lui dit « Mon frère, ne pourrions-nous pas faire un jeu particulier, vous, la reine et moi, et quelqu'un de vos intimes, afin que, sous l'apparence d'un whist, nous puissions causer un peu confidentiellement ?»« Volontiers, mon frère, répondit le roi, arrangez cela avec la reine. » Monsieur se rapprocha de Marie-Antoinette, à qui Charny présentait ses hommages et disait tout bas « Madame, j'ai vu Monsieur de Favras et j'ai des communications de la plus haute importance à faire à votre majesté. »« Ma chère sœur, dit monsieur, le roi désire que nous fassions un whist à quatre. Nous nous réunissons contre vous et il vous laisse le choix de votre partenaire. » « Eh bien, dit la reine, qui se douta que cette partie de whist n'était qu'un prétexte, mon choix est fait, monsieur le baron de Charny, vous serez de notre jeu, et, tout en jouant, vous nous donnerez des nouvelles de Turin. »« Ah, vous venez de Turin, baron, dit monsieur, Oui, monseigneur, et en revenant de Turin, je suis passé par la place royale où j'ai vu un homme fort dévoué au roi, à la reine et à votre Altesse. Monsieur rougit, toussa, s'éloigna. C'était un homme tout d'ambages et de circonspection. Cet esprit droit et précis l'inquiétait. Il jeta un regard à monsieur de la Châtre, qui s'approcha de lui, reçut ses ordres tout bas et sortit. Pendant ce temps, le roi saluait et recevait les hommages des gentilshommes et des femmes un peu rares qui continuaient de fréquenter le cercle des Tuileries. La reine alla le prendre par le bras et l'attira au jeu. Il s'approcha de la table, chercha des yeux le quatrième joueur et n'aperçut qu'Isidore. Ah, monsieur de Charny, dit-il, en l'absence de votre frère, c'est vous qui faites notre quatrième. Il ne pouvait être mieux remplacé. Soyez le bienvenu. Et d'un signe, il invita la reine à s'asseoir, s'assit après elle, et puis monsieur après lui. La reine fit à son tour un geste d'invitation à Isidore, qui prit place le dernier. Madame Élisabeth s'agenouilla sur une causeuse derrière le roi et appuya ses deux mains sur le dossier de son fauteuil. On fit deux ou trois tours de whist en prononçant seulement les paroles sacramentelles. Et puis enfin, tout en jouant, et après avoir remarqué que le respect tenait tout le monde écarté de la table royale, mon frère, hasarda la reine en s'adressant à monsieur, le baron vous a dit qu'il venait de Turin. Oui, dit monsieur, il m'a touché un mot de cela. Il vous a dit que monsieur le comte d'Artois et monsieur le prince de Condé nous invitaient fort à aller les joindre. Le roi laissa échapper un mouvement d'impatience. Mon frère, murmura madame Élisabeth avec sa douceur d'ange, écoutez, je vous prie. Et vous aussi, ma sœur, dit le roi, moi plus que personne, mon cher Louis, car moi plus que personne, je vous aime et suis inquiète. J'ai même ajouté, hasarda Isidore, que j'étais revenu par la place royale et que je m'étais arrêté près d'une heure au numéro 21. Au numéro 21? Demanda le roi. Qu'est-ce que cela? Au numéro 21, sire, reprit Isidore, demeure un gentilhomme fort dévoué à votre majesté, comme nous tous, prêt à mourir pour elle, comme nous tous, mais qui, plus actif que nous tous, a combiné un projet. Quel projet, monsieur? Demanda le roi en levant la tête. Si je croyais avoir le malheur de déplaire au roi en répétant à sa majesté ce que je sais de ce projet, je me tairais à l'instant même. Non, non, monsieur, dit vivement la reine, parlez. Assez de gens font des projets contre nous. C'est bien le moins que nous connaissions ceux qui en font pour nous, afin que, tout en pardonnant à nos ennemis, nous soyons reconnaissants à nos amis. Monsieur le baron, dites-nous comment s'appelle ce gentilhomme? Monsieur le marquis de Favras, madame. Ah, dit la reine, nous le connaissons, et vous croyez à son dévouement, monsieur le baron. À son dévouement, oui, madame, non seulement j'y crois, mais encore j'en suis sûr. Faites attention, monsieur, dit le roi, vous vous avancez beaucoup. Le cœur se juge avec le cœur, sire, je réponds du dévouement de monsieur de Favras. Quant à la bonté de son projet, quant aux chances qu'il a de réussir, oh, cela, c'est autre chose. Je suis trop jeune, et lorsqu'il s'agit du salut du roi ou de la reine, je suis trop prudent pour oser émettre une opinion là-dessus. Et ce projet, voyons, où en est-il? Dit la reine. Madame, il en est à son exécution, et s'il plaît au roi de dire un mot, de faire un signe, ce soir, demain, à pareille heure, il sera à Péronne. Le roi garda le silence. Monsieur tordit les reins à un pauvre valet de cœur qui n'en pouvait mais. Sire, fit la reine s'adressant à son mari, entendez-vous ce que le baron vient de dire? Oui, certes, j'entends, répondit le roi en fronçant le sourcil. Et vous, mon frère? Demanda la reine à monsieur. Je ne suis pas plus sourd que le roi. Eh bien, voyons, qu'en dites-vous? C'est une proposition, ce me semble. Sans doute, dit monsieur, sans doute. Puis, se tournant vers Isidore, allons, baron, dit-il, répétez-nous ce joli couplet. Isidore reprit. Je disais que le roi n'avait qu'un mot à prononcer, qu'un signe à faire, et que, grâce aux mesures prises par monsieur de Favras, il serait 24 heures après en sûreté dans sa ville de Péronne. Eh bien, mon frère, demanda monsieur, est-ce que ce n'est pas tentant ce que le baron vous propose là? le roi se retourna vivement vers monsieur et fixant son regard sur le sien. « Et si je pars, dit-il, partez-vous avec moi ?» Monsieur changea de couleur, ses joues tremblèrent, agitées par un mouvement qu'il ne fut point maître de réprimer. « Moi, dit-il, et oui, vous, mon frère, dit Louis XVI, vous qui m'engagez à quitter Paris, je vous demande, si je pars, partez-vous avec moi ?» Mais, balbutia monsieur, moi je n'étais pas prévenu, aucun de mes préparatifs n'est fait. Comment vous n'étiez pas prévenu, dit le roi, c'est vous qui fournissiez l'argent à monsieur de Favras. Aucun préparatif n'est fait, et vous êtes renseigné heure par heure sur le point où en est le complot. Le complot, répéta monsieur pâlissant. Et sans doute le complot, car c'est un complot si réel que, s'il est découvert, monsieur de Favras sera emprisonné, conduit au Châtelet et condamné à mort, à moins qu'à force de sollicitations et d'argent, vous ne le sauviez, comme nous avons sauvé monsieur de Bézenval. Mais si le roi a sauvé monsieur de Bézenval, il sauvera aussi bien monsieur de Favras. Non, car ce que j'ai pu pour l'un, je ne le pourrai probablement plus pour l'autre. D'ailleurs, monsieur de Bézenval était mon homme, comme monsieur de Favras est le vôtre. Que chacun sauve le sien, mon frère, et nous aurons fait tous les deux notre devoir. » Et en prononçant ces paroles, le roi se leva. La reine le retint par le pan de son habit. « Sire, dit-elle, soit pour accepter, soit pour refuser, vous devez une réponse à monsieur de Favras. » « Moi ?» « Oui, que répondra le baron de Charny au nom du roi ?»« Il répondra, dit Louis XVI en dégageant son habit des mains de la reine, il répondra que le roi ne peut pas se permettre qu'on l'enlève. » Et il s'éloigna. « Ce qui veut dire, continua monsieur, que si le marquis de Favras enlève le roi sans sa permission, il sera le très bienvenu, pourvu toutefois qu'il réussisse, car quiconque ne réussit pas est un sot, et en politique, les sots méritent double punition. « Monsieur le baron, dit la reine, ce soir même, sans perdre un instant, courez chez monsieur de Favras et dites-lui les paroles du roi. Le roi ne peut pas permettre qu'on l'enlève. C'est à lui de les comprendre ou à vous de les expliquer. Allez !» Le baron, qui regardait avec raison la réponse du roi et la recommandation de la reine comme un double consentement, prit son chapeau, sortit vivement et s'élança dans un fiacre en criant au cocher « Place royale, numéro 21 !» Le roi, en se levant de la table de jeu, s'était dirigé vers le groupe de jeunes gens dont les rires joyeux avaient attiré son attention avant même qu'il fût entré dans le salon. À son approche, le plus profond silence s'établit. « Eh bien, messieurs, demanda-t-il, le roi est-il donc si malheureux qu'il porte la tristesse avec lui ?»« Sire, murmurèrent les jeunes gens, la gaieté était grande et le rire bruyant quand nous sommes entrés tout à l'heure, la reine et moi. » Puis, secouant la tête, « Malheur au roi, dit-il, devant lesquels on n'ose pas rire. »« Sire, dit monsieur de Lamette, le respect. » « Mon cher Charles, dit le roi, quand vous sortiez de votre pension les dimanches ou les jeudis, et que je vous faisais venir en récréation à Versailles, est-ce que vous vous priviez de rire parce que j'étais là ? J'ai dit tout à l'heure malheur aux rois devant lesquels on n'ose pas rire, je dis maintenant heureux les rois devant lesquels on rit. » « Sire, dit monsieur de Castries, c'est que le sujet qui nous mettait en gaieté ne paraîtra peut-être pas des plus comiques à votre majesté. Et de quoi parliez-vous donc, messieurs ? Sire, dit Sulo en s'avançant, je livre le coupable à votre majesté. Ah, dit le roi, c'est vous, monsieur Sulo. J'ai lu votre dernier numéro des Actes des Apôtres. Prenez garde, prenez garde. À quoi, sire ? Demanda le jeune journaliste. « Vous êtes un peu trop royaliste. Vous pourriez bien vous attirer de mauvaises affaires avec l'amant de mademoiselle Théroigne. »« Avec monsieur Populus, dit en riant Sulo. Justement, et qu'est devenue l'héroïne de votre poème ? Théroigne ? Oui, je n'entends plus parler d'elle. Sire, je crois qu'elle trouve que notre révolution ne marche pas assez vite et qu'elle est allée activer celle du Brabant. » « Votre Majesté sait probablement que cette chaste amazone est de Liège. Non, je ne savais pas. Était-ce à propos d'elle que vous riez tout à l'heure? Non, sire, c'était à propos de l'Assemblée nationale. Oh, messieurs, alors vous avez bien fait de redevenir sérieux en m'apercevant. Je ne puis permettre que l'on rie de l'Assemblée nationale chez moi. Il est vrai, ajouta le roi, par manière de capitulation, que je suis non pas chez moi, mais chez la princesse de Lamballe. Ainsi donc, tout en ne riant plus, ou tout en riant bas, vous pouvez me dire ce qui vous faisait rire si haut. Le roi sait-il de quelle chose il a été question aujourd'hui, pendant toute la séance de l'Assemblée nationale? Oui, et cela m'a même fort intéressé. N'a-t-il pas été question d'une nouvelle machine à exécuter les criminels? Offerte par monsieur Guillotin à la nation. Oui, sire, dit Sulot. Oh, monsieur Sulot, et vous vous moquiez de monsieur Guillotin, d'un philanthrope? Ah, ça, mais vous oubliez que je suis philanthrope moi-même. Oh, sire, je m'entends. Il y a philanthropie et philanthropie. Il y a par exemple à la tête de la nation française un philanthrope qui a aboli la torture préparatoire. Celui-là, nous le respectons, nous le vénérons, nous faisons plus, nous l'aimons, celui-là, sire. Tous les jeunes gens s'inclinèrent d'un seul mouvement. Mais, continua Sulot, il y en a d'autres qui, étant déjà médecins et ayant entre les mains 1000 moyens, plus adroits ou plus maladroits les uns que les autres, de faire sortir les malades de la vie, cherchent encore le moyen d'en faire sortir ceux qui se portent bien. Ah, par ma foi, ceux-là, sire, je prierai votre majesté de me les abandonner. Et qu'en ferez-vous, monsieur Sulot? Les décapiterez-vous sans douleur? Demanda le roi, faisant allusion à la prétention émise par le docteur Guillotin. En seront-ils quittes pour sentir une légère fraîcheur sur le cou? Sire, c'est ce que je leur souhaite, dit Sulot, mais ce n'est pas ce que je leur promets. Comment, ce que vous leur souhaitez? Dit le roi. Oui, sire, j'aime assez que les gens qui inventent des machines nouvelles les essaient. Je ne plains pas fort, maître Aubriot, essuyant les murs de la Bastille, et messire Enguerrand de Marigny, traînant le gibet de Beaufaucon. Malheureusement, je n'ai pas l'honneur d'être roi. Heureusement, je n'ai pas le bonheur d'être juge. Il est donc probable que je serai obligé de m'en tenir vis-à-vis du respectable Guillotin à ce que je lui promets et à ce que j'ai déjà commencé à tenir. Et qu'avez-vous promis, ou plutôt qu'avez-vous tenu? Mais il m'est venu dans l'idée, sire, que ce grand bienfaiteur de l'humanité devait tirer sa récompense du bienfait lui-même. Or, demain matin, dans le numéro des Actes des Apôtres, qu'on imprime cette nuit, le baptême aura lieu. Il est juste que la fille de monsieur Guillotin, reconnue aujourd'hui publiquement par son père en face de l'Assemblée nationale, s'appelle mademoiselle Guillotine. Le roi lui-même ne put s'empêcher de sourire. Eh, dit Charles Lamette, comme il n'y a ni noce ni baptême sans chanson, monsieur Sulot a fait sur sa filleule 2 chansons. Deux, fit le roi. Sire, dit Sulot, il en faut pour tous les goûts. Et sur quel air avez-vous mis ces chansons-là? Je ne vois guère que l'air du De Profundis qui le raille. Oh, fi donc, sire, votre majesté oublie l'agrément qu'on aura à se faire couper le cou par la fille de monsieur Guillotin, c'est-à-dire qu'il y aura queue à la porte. Non, sire, l'une de mes chansons est sur un air fort à la mode, celui du Menuet d'Exodète. L'autre est sur tous les airs, c'est un pot-pourri. Et peut-on avoir un avant-goût de votre poésie, monsieur Sulot? Demanda le roi. Sulot s'inclina. Je ne suis pas de l'Assemblée nationale, dit-il, pour avoir cette prétention de borner les pouvoirs du roi. Non, je suis un fidèle sujet de sa majesté, et mon avis est que le roi peut tout ce qu'il veut. Alors je vous écoute. Sire, dit Sulot, j'obéis. Et il chanta à demi-voix, sur l'air du Menuet d'Exodète, comme nous avons dit, la chanson suivante. Guillotin, médecin, politique, imagine un beau matin que pendre est inhumain et peu patriotique. Aussitôt, il lui faut un supplice qui, sans corde ni poteau, supprime du bourreau l'office. C'est en vain que l'on publie que ces pures jalousies d'un suppôt, du tripot, d'Hippocrate, que de tuer impunément, même exclusivement, se flatte le Romain, guillotin, qui s'apprête, consulte gens de métier, Barnave et Chapelier, même le coupe-tête, et sa main fait soudain la machine, qui simplement nous tuera, et que l'on nommera guillotine. Les rires des jeunes gens redoublèrent, et quoique tout cela ne parut pas très gai au roi, comme Sulot était de ses plus dévoués, il ne voulut point laisser voir l'espèce d'émotion qui, sans qu'il s'en rendît compte, lui serrait le cœur. « Mais, dit-il, mon cher Sulot, vous nous avez parlé de deux chansons. Voilà le parrain, passons maintenant à la marraine. » « Sire, dit Sulot, la marraine va avoir l'honneur de vous être présentée. La voici, c'est sur l'air, Paris est au roi. » Monsieur Guillotin, ce grand médecin, que l'amour du prochain occupe sans fin, s'avance soudain, prend la parole enfin, et d'un air bénin, il propose peu de choses qu'il expose en peu de mots. Mais l'emphase de sa phrase obtient les bravos de 5 ou 6 sots. Messieurs, dans votre sagesse, si vous avez décrété, pour toute humaine faiblesse, la loi de l'égalité, pour peu qu'on daigne m'entendre, on sera bien convaincu que s'il est cruel de pendre, il est dur d'être pendu. Comment donc faire quand un honnête citoyen, dans un mouvement de colère, assassinera son prochain? Comment donc faire? En tirant à la sourdine, pour vous tirer d'embarras, j'ai fait une machine qui met les têtes en bas. C'est un coup que l'on reçoit, avant qu'on s'en doute, à peine on s'en aperçoit, car on y voit goutte. Un certain ressort caché, tout à coup étant lâché, fait tomber, bébé, fait sauter, tété, fait tomber, fait sauter, fait voler la tête, c'est bien plus honnête. Eh bien, messieurs, dit le roi, vous riez, si cependant cette machine de monsieur Guillotin était destinée à épargner des souffrances terribles aux malheureux condamnés, que demande la société quand elle réclame la mort d'un coupable, la suppression pure et simple de l'individu? Si cette suppression est accompagnée de souffrances, comme dans la roue, comme dans l'écartèlement, ce n'est plus une justice, c'est une vengeance. « Mais, sire, observa Sulot, qui dit à votre majesté que la douleur est supprimée par le fait de la section de la tête, hein, qui dit que la vie ne persiste pas à la fois dans les deux tronçons et que le moribond ne souffre pas doublement, ayant la conscience de sa dualité. Ah, cela, dit le roi, c'est une question à faire discuter par les gens de l'art. Au reste, une expérience a dû être faite, je crois, à Bicêtre, ce matin même. Personne de vous n'assistait à l'expérience? Oh, non, sûr, non, 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 dirent presque simultanément 12 ou 15 voix railleuses. J'y étais, moi, sire, dit une voix grave. Le roi se retourna et reconnut Gilbert, qui était entré pendant la discussion, s'était approché respectueusement, et qui, s'étant tu jusque-là, répondait seulement à l'interrogation du roi. « Ah, c'est vous, docteur, dit le roi tressaillant. Ah, vous étiez là? Oui, sire. Et comment l'expérience a-t-elle réussi? Parfaitement sur les deux premiers, sire, mais au troisième, quoique la colonne vertébrale eût été tranchée, on a été forcé d'achever la section de la tête avec un couteau. » Les jeunes gens écoutaient la bouche ouverte et les yeux hagards. « Comment, sire, dit Charles Lamette, parlant visiblement au nom de tous les autres en même temps, on a exécuté 3 hommes ce matin ?»« Oui, messieurs, dit le roi, seulement ces 3 hommes étaient 3 cadavres fournis par l'Hôtel-Dieu. Et votre avis, monsieur Gilbert ?»« Sur quoi, sire ?»« Mais sur l'instrument. » Sire, c'est évidemment un progrès à côté de toutes les machines du même genre inventées jusqu'à aujourd'hui, mais l'accident arrivé au 3e cadavre prouve que cette machine a besoin de perfectionnement. Et comment est-elle faite? Demanda le roi, chez lequel s'éveillait le génie du mécanisme. Alors Gilbert essaya de donner une explication, mais comme le roi, d'après les paroles du docteur, ne pouvait saisir la forme exacte de l'instrument, Venez, dit-il, venez, docteur, voici sur une table des plumes, de l'encre et du papier. Vous dessinez, je crois.
Oui, sire.
Eh bien, vous me ferez un croquis, je comprendrai mieux.
Et comme les jeunes gentilshommes, retenus par le respect, n'osaient suivre le roi sans y être invités,
venez, venez, messieurs, dit Louis XVI, ces questions-là intéressent l'humanité tout entière.
Et puis qui sait, dit Sulot à demi-voix, qui sait si l'un de nous n'est pas destiné à l'honneur d'épouser Mademoiselle Guillotine.
Allons, messieurs, allons faire connaissance avec notre fiancée.
Et tous, suivant le roi et Gilbert, se groupèrent autour de la table devant laquelle, pour exécuter plus facilement son dessein, Gilbert s'assit sur l'invitation du roi. Gilbert commença le croquis de la machine, dont Louis XVI suivit les lignes avec la plus scrupuleuse attention. Rien n'y manquait, ni la plateforme, ni l'escalier qui y conduisait, ni les deux poteaux, ni la bascule, ni la petite fenêtre, ni le fer taillé en croissant. Il achevait à peine ce dernier détail que le roi l'arrêta.
« Parbleu, dit-il, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'expérience ait manqué, surtout la troisième fois. »«
Comment cela, sire ?» demanda Gilbert.
« Cela tient à la forme du couperet, dit Louis XVI. Il faut n'avoir aucune idée de mécanique pour donner à un objet destiné à trancher une matière offrant résistance, la forme d'un croissant. »«
Mais quelle forme votre majesté lui donnerait-elle donc ?»
C'est bien simple, celle d'un triangle.
Gilbert essaya de rectifier le dessin.
Ah non, non, pas cela, dit le roi, pas cela. Donnez-moi votre plume.
Sire, dit Gilbert, voici la plume et la chaise.
Attendez, attendez, dit Louis XVI, emporté par son amour de la mécanique. Tenez, taillez-moi le fer en biseau, ainsi, là, ainsi. Et je vous réponds que vous couperiez 25 têtes à la suite les unes des autres sans que le fer rebutât sur une seule. »
Il achevait à peine ces paroles qu'un cri déchirant, un cri d'effroi, presque de douleur, retentit au-dessus de sa tête. Il se retourna vivement et vit la reine, pâle, chancelante, éperdue, qui tombait évanouie au bras de Gilbert. Poussée comme les autres par la curiosité, elle s'était approchée de la table et, se penchant sur la chaise du roi, elle l'avait par-dessus son épaule au moment même où il en corrigeait le principal détail, reconnut la hideuse machine que Cagliostro lui avait fait voir 20 ans auparavant au château de Tavernet-Maison-Rouge. À cette vue, elle n'avait eu la force que pour jeter un cri terrible, et la ville l'ayant abandonnée, comme si la fatale machine eût opéré sur elle, elle était, ainsi que nous l'avons dit, tombée évanouie entre les bras de Gilbert.